Oui. Bonjour. C'est vraiment très. Oui, j'ai tendance à parler un petit peu fort, là. Je sais pas si ça. C'est vraiment très, très gentil de nous inviter, Marie et moi, à venir chez vous. C'est extrêmement gentil aussi de m'inviter à partager les choses que je suis en train d'étudier ces derniers temps, puis qu'on partage dans notre propre communauté. C'est très. Je suis très content de pouvoir le faire. On a perdu quelque chose, ça va? On était effectivement dans la même communauté, puis je dois vous dire que dans la vie, des fois, on rencontre des gens qui nous construisent. Des fois, il y a des connexions qui se font avec les gens qui nous construisent, qui nous font. Notre esprit change un petit peu de direction de toutes sortes de différentes façons. La rencontre avec les Bédard, puis le temps qu'on a passé dans l'Église réformée à Trois-Rivières, a été vraiment pour Marie et moi ce genre de situation-là. On a appris à connaître une communauté, on a appris à connaître une façon de réfléchir à la foi qui nous a vraiment viré de bord en bord. Et on a appris à connaître des personnes qu'on apprécie beaucoup, beaucoup et qu'on est toujours très, très content de revoir à chaque fois. C'est vraiment un privilège pour nous d'être ici ce matin. Je vous invite à tourner dans le livre de la Genèse au chapitre 15. La lecture va être tirée chapitre 15, qui dans la Bible, c'est la seconde 21, a le petit sous-titre Renouvellement des promesses à Abraham. Chapitre 15, on va lire tout le chapitre. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui affirma, Telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugera. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Réphéims, des Amoréens, des Cananéens, des Girgassiens, des Jébusiens. Un texte qui est très, très riche, un texte important dans notre compréhension de la foi, un texte qui nous rappelle, un texte aussi qui est compliqué. Une des choses que je me rends compte de plus en plus à chaque fois que je retourne dans les textes de la Bible en général, mais de l'Ancien Testament particulièrement, c'est que c'est extrêmement difficile de comprendre. Les gens faisaient des choses, les choses se passaient d'une certaine façon, puis lire un texte ancien qui a 4000 ans ou 3500 ans, c'est extrêmement compliqué de savoir de quoi il s'agit. Puis ça a été vraiment une occasion d'apprentissage de préparer ce partage-là pour comprendre un peu qu'est-ce qui était en train de se passer. Puis il y a même eu une anecdote intéressante que j'ai hâte de vous partager. Je veux souligner trois éléments de contexte. Trois éléments de contexte, puis deux points. D'accord? D'habitude, il y a moins de contexte que de points, mais le contexte est important ici pour comprendre un peu pourquoi les deux points prennent toute leur importance. Première chose qu'il faut, on est au 15e chapitre du livre de la Genèse. Ça ne fait pas longtemps que tout a été fabriqué, puis ça ne fait pas longtemps que tout n'a pas marché. D'accord? Et c'est important pour nous de comprendre que dans la création, la chose dans laquelle Dieu s'est le plus versé de lui-même, a versé le plus de lui-même, dans laquelle Dieu a mis le plus son étampe, son identité, c'est nous. Dieu a mis son amour le plus profond dans la création de chaque personne, de chaque être humain. Il a une affection profonde, particulière pour chacun d'entre nous d'une façon spéciale qu'on ne peut pas comprendre très bien. On est à l'image de Dieu. Dans n'importe quelle autre foi, n'importe où, c'est scandaleux de pouvoir dire ça, que nous sommes, nous, comme nous sommes, fabriqués à l'image de Dieu. Ça m'arrive régulièrement de me regarder dans le miroir et me dire « Oh, where is he? » Des fois, je me retrouve dans des situations où je suis en train de me comporter d'une façon X, Y, Z avec ma femme ou mes enfants ou mes collègues de travail ou quelque chose, puis je me dis « Oh, défaillance ». On a de la misère à se voir ou à voir l'image de Dieu en dedans de chacun d'entre nous parce qu'on est souvent confronté à nos limites. Mais il y a quelque chose de très, très important, il y a quelque chose de vraiment important pour nous de nous rappeler. Puis quelque chose qui est scandaleux pour le reste de la planète, c'est que nous sommes des petits dieux. Nous avons été créés en tant que petits dieux. C'est ce qui rend le mensonge du serpent dans le jardin encore plus scandaleux, c'est que nous étions à l'image de Dieu et c'est avec cette idée-là que le serpent a tenté Adam et Ève. Vous allez être comme des dieux. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que vous mangez. Non. Il y a quelque chose de tordu dans la manière que les choses ont été présentées. Nous sommes des petits dieux. Premier point, c'est que Dieu, dans tout son amour, dans tout son désir de se manifester, de se présenter, c'est nous qui l'a fabriqué. Je pense que c'est quelque chose qui est important. C'est comme un artisan qui a fabriqué. Je ne sais pas, on parle parfois de ça chez nous. Quand Dieu nous a fabriqué, chacun d'entre nous, c'est comme un artiste devant une toile, c'est comme un sculpteur devant une pièce de bois ou une pièce de pierre qu'il doit tailler. Il est en train de penser à comment il va la faire et il met tout son amour, toute la profondeur de son être entre dans chacun d'entre nous. Difficile à croire, scandaleux dans certaines fois, dans certaines façons de voir le monde. Mais pour nous, c'est la base de ce que nous croyons. L'affection de Dieu est en dedans de chacun d'entre nous. Le deuxième point, tout aussi important, et quelque chose qui, encore une fois, échappe à beaucoup de gens, c'est que le monde, incluant les humains, est profondément brisé. Et ça donne une humanité qui va se définir par la colère et par la violence. Un tout petit peu plus tôt dans la Genèse, au chapitre 6, avant le déluge, on lit « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. » Au verset 11, « Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. » Difficile pour nous d'imaginer le genre d'environnement dont on est en train de parler. On vit en Occident, un monde qui est hanté par le judéo-christianisme, un monde où on a pas mal des bases relativement similaires d'un contexte à un autre, d'une société à un autre, pour dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Puis on est comme, ça serait difficile pour nous d'imaginer un monde dans lequel on n'a pas eu le judéo-christianisme. Quel serait le bien, quel serait le mal dans ce type de monde-là? Peut-être qu'on va le savoir, parce que l'Occident est en train de rejeter de manière assez importante beaucoup de traditions, beaucoup d'idées judéo-chrétiennes. Mais à l'époque, imaginez une moralité de camp de concentration. Imaginez la noirceur qui plane sur la terre. Les gens ont rejeté Dieu et la connaissance du bien et du mal est complètement absente. C'est la force qui domine. Celui qui est plus fort a ce qu'il veut, aussi longtemps qu'il le veut, jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un de plus fort que lui. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu une période où les gens étaient très intrigués par le fait que il y avait autant de violence possible à l'intérieur de l'être humain. Puis les philosophes, les chercheurs de toutes sortes, les psychologues coupables, ont beaucoup réfléchi à d'où venait toute cette espèce de boulimie de violence auquel on avait été exposé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque part entre 50 et 80 millions de morts. Ça m'étonne qu'on puisse se tromper par 30 millions de personnes, on n'est pas sûr. Quelque part entre 50 et 80 millions de morts, il y a une violence inouïe. Et puis les gens ont dit, « Oh, qui sommes-nous? D'où venons-nous pour que ce type de violence-là puisse émerger de nous? » Puis en tant que croyants, nous, on ne devrait pas être surpris. Parce que dans un monde où on va rejeter Dieu, où on va ne pas tenir compte de ce que Dieu a à nous offrir, on ne devrait pas être surpris que ce type de violence-là devrait émerger. C'est partout dans les Écritures que c'est possible. Puis surtout au début, quand on avait rejeté Dieu puis qu'on essayait de faire fonctionner nos vies sans Dieu, c'était quelque chose qui émergeait. Le monde était corrompu, toute l'humanité suivait la voie du mal. On a vu dans un microcosme pendant la Deuxième Guerre mondiale quelque chose d'absolument épouvantable qui nous effraie encore à ce jour. On est très préoccupés. Puis c'est pas juste quelque chose d'énorme, c'est pas juste de la géopolitique puis de la guerre puis tout ça. Le mal, il est partout. Même dans notre bulle occidentale où on est très protégé, où on a une façon de voir le mal. Je veux dire, on peut marcher dans les rues de Repentigny sans trop de préoccupations. C'est pas trop dangereux. Puis on sait qu'il y a des villes dans le monde où on va marcher, où il faut faire attention. Marie et moi, on était en Amérique latine cet été pour le travail. Et puis, il fallait qu'on se fasse accompagner. On était dans des villes importantes où il fallait qu'on se fasse accompagner parce que les gens avaient peur un petit peu pour nous que les choses pouvaient arriver. Mais même chez nous, il y a quand même des choses dures qui sont en train de se passer, qui nous scandalisent quand on apprend qu'elles se passent. Pensez à tout le mouvement « Moi aussi ». C'est toutes des choses qui sont passées en cachette pendant tellement longtemps, mais qui sont passées de manière, avec une régularité puis une fréquence qui est effrayante. Il y a quelque chose de cassé. Il y a quelque chose de cassé. Puis si on veut comprendre l'essence du message des croyants, la chose qu'on veut dire le plus, si on perd de vue la cassure humaine, on ne va pas comprendre. Puis si on pense que ben, c'est cassé, mais ce n'est pas si pire, si on pense que, ben franchement, Georges, t'exagères pas que le monde est brisé, tu ne trouves pas que tu es en train de dire des choses un petit peu trop sévèrement, on ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre la suite des choses. Le monde est dur. Au début de la Genèse, après la chute, il n'y avait rien pour retenir la malédiction. Il n'y a rien qui se passe. Tellement que pour Dieu, la seule manière dont il pouvait sauver la création qu'il aimait, dont il pouvait sauver la création dans laquelle il avait mis tout son amour, incluant ou surtout les hommes et les femmes qui représentaient, qui étaient son image sur Dieu, c'était d'effectuer des jugements. Il devait y avoir un déluge. Le déluge, on le voit comme un jugement, c'est aussi un acte de préservation. Il y avait après ça l'histoire de la tour de Babel. On va voir plus tard dans la suite de la Genèse, il va y avoir Sodome et Gomorre. Par après, il va y avoir des guerres, des choses que Dieu va utiliser pour le jugement. Puis à un moment donné, il va y avoir la croix que Dieu utilise pour le jugement. Il y aura toujours un jugement comme un acte de sauvetage. Dieu est en train d'effectuer un acte de sauvetage des gens qu'il aime, qu'il est en train d'aller chercher. Fait que c'est important de voir la cassure et comment elle a nécessité de la part de Dieu d'agir d'une façon pour préserver l'œuvre qu'il est en train de préparer à ce moment-ci. Enfin, troisième point de contexte que je pense qu'il est important à souligner, c'est qu'Abraham a été ciblé par Dieu pour poursuivre l'entente auquel il fait référence au début de la Genèse après la chute, l'entente qu'il réitère d'une manière quand même assez forte après le déluge et Noé, pour sauver son peuple, pour sauver sa création. Au chapitre 9, après le déluge, on lit « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, tous les animaux de la terre. Je m'engage avec vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y a plus de déluge pour ravager la terre. » Moi, si j'avais été Dieu, une chance que je ne sois pas Dieu, soit dit en passant, mais si j'avais été Dieu, après avoir vu comment les gens fonctionnaient puis tout ce qui était en train de se passer, ça aurait été extrêmement tentant de dire « j'efface tout. J'efface tout, je recommence. Il me semble qu'il y a quelque chose qui a mal été, là. J'efface tout. Le cosmos ne le saura pas. C'est moi qui fabrique le cosmos. Personne ne va le savoir si j'efface tout. Notre Dieu n'est pas comme ça. Ça aurait été trop simple de tout recommencer. Mais quand même, en n'effaçant pas tout, en ne faisant pas ça, il nous dit qu'il ne va pas effectuer d'autres jugements de ce type-là. Et puis si on comprend bien l'histoire de Noé, il est en train de nous poser une question. Comment est-ce que dans le contexte d'une humanité qui est tout croche, qui est abîmée, comment est-ce qu'il va ne pas effectuer ce jugement-là? L'histoire de Noé nous pose la question, comment Dieu va-t-il épargner les humains tout en conservant sa justice, tout en conservant son affection pour les gens? Ça nous pose la question. L'histoire de Noé nous ramène à cette idée-là qui va être très, très fondamentale. Une partie de la réponse se retrouve au chapitre 15, à l'endroit où Dieu réitère la promesse qu'il avait donnée à Abraham au chapitre 12. Fait que trois éléments. Nous sommes l'incarnation de l'amour de Dieu à la création. Nous sommes les images de Dieu. Nous sommes l'incarnation de ce que Dieu voulait qu'il représente lui sur la terre. Ce qui est, malgré nos défaillances, une chose profonde qu'on ne doit pas perdre de vue pour comprendre pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Deuxième point, nous sommes profondément brisés, fissurés, cassés, d'une manière qu'on a peine à comprendre. Puis le troisième point, c'est que Dieu ne va pas juste nous effacer. Dieu est en train de poursuivre son plan de sauvetage par le biais de la personne d'Abraham. Ça nous amène à deux points qui sortent du texte qu'on a maintenant. Ça va jusqu'à maintenant, vous êtes toutes là, trois éléments de contexte. Deux points que je veux souligner. Le doute d'Abraham et la réponse de Dieu, c'est deux points en un. Okay? C'est comme un rabais du dimanche matin. Deux points en un. Le doute d'Abraham et la réponse de Dieu. Et puis le deuxième point que je veux souligner, c'est qu'est-ce que ça implique pour nous. D'accord? Le doute d'Abraham et la réponse de Dieu et ce que ça implique pour nous. Dans cette histoire, dans l'histoire qu'on a lue, Dieu approche Abraham. Abraham vient juste de faire quelque chose de majeur. Okay? Quand on dit au tout début, après ces événements, de quels événements est-ce qu'il est question? Abraham vient juste d'effectuer le sauvetage de Lot. Vous vous souvenez, Lot avait été pris, il y avait eu une chicane de roitelet, puis Abraham avait ramassé une couple de centaines de ses hommes, puis il est allé de nuit sauver les biens et les gens de Sodome et Gomorrhe, incluant Lot, et il les a ramenés. Et on pouvait comprendre qu'il puisse être un peu inquiet après avoir fait ça, parce que ce n'était pas un monde facile, on vient juste de dire que le monde n'était pas... C'était pas un monde de calinours. Et il pouvait être préoccupé d'avoir des représailles. Il pouvait être inquiet que des personnes puissent lui en vouloir pour une raison ou une autre. C'est comme ça que les choses fonctionnaient à l'époque. Donc, les paroles de Dieu à ce moment-là sont très, très importantes. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier protecteur. Ta récompense sera très grande. Ne crains rien, je suis ton bouclier. T'es inscrit dans une histoire qui est plus grande. Que ce que tu es capable d'envisager dans le moment. Je suis ton bouclier protecteur. Il n'y a rien qui va t'arriver sans que ça passe par moi. » C'était hors caractère pour Abraham de faire ça, parce qu'Abraham est en train... Une des choses qui est intéressante de noter dans l'histoire d'Abraham, c'est son changement de caractère. Au début, Abraham, malgré le fait qu'il ait des promesses, n'hésite pas à mentir au sujet de Sarah. Il se retrouve dans une situation embêtante en Égypte, puis il dit que Sarah, c'est sa sœur, pour se protéger, parce qu'il avait peur que les Égyptiens le zigouillent. Puis là, on voit Abraham qui décide de faire quelque chose vraiment de courageux. Il ramasse son monde, puis il s'en va sauver son neveu. Et il y a comme une étampe qu'on lui donne après avoir fait ça, avec la présence de Melchizedek, l'espèce d'épiphanie qu'il y a eu. Melchizedek qui se présente pour lui dire que ce qu'il avait fait était la bonne chose à ce moment-là. Malgré son doute, malgré ses préoccupations, Abraham avait bien agi. Et on peut imaginer que comme tout acte de courage... Après tout acte de courage, on peut imaginer que c'est vulnérabilisant. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous êtes retrouvé dans votre vie. Agir par la foi, c'est extrêmement vulnérabilisant. Et dans ce cas-ci, on a Abraham qui a fait quelque chose hors caractère, carrément dangereux. Puis on comprend maintenant que les paroles de Dieu étaient très, très importantes pour lui à ce moment-là. « Ne crains rien, je suis ton bouclier. » Mais là, Abraham fait quelque chose d'un petit peu, peut-être, on aurait pu présumer qu'Abraham dise, « Oh, phew, une chance que tu es là, Dieu. » C'est correct, ça va être correct. Mais Abraham ne fait pas ça. Quand Dieu le réconforte, qu'est-ce qu'il dit? Il poursuit son doute, il détale son doute. Il est en train d'étaler sa préoccupation profonde. Dieu s'approche de lui et la réponse d'Abraham, c'est de lui dire, « Tu m'as dit que j'allais avoir un enfant. J'en ai pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un serviteur de Damas qui va tout hériter. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? » C'est pas la première fois que Abraham doute de Dieu. C'est la première fois qu'il lui dit personnellement, après que Dieu s'approche de lui. Puis ça nous fait réfléchir à cette question de doute. Je trouve que la réponse de Dieu à l'égard d'Abraham est extrêmement sensible. Il l'amène dehors. On peut quasiment le sentir, le prendre, mettre sa main autour de son épaule, l'amener dehors, puis lui dire de compter les étoiles. Puis on peut voir un peu comment il veut répondre à ce doute-là. Il veut lui parler par rapport aux choses qui l'inquiètent beaucoup. Le doute d'Abraham ici, c'est un doute qu'il formule auprès de Dieu. C'est dans le contexte de son lien, de sa relation avec Dieu, qu'il arrive à le formuler. Ce n'est pas un doute qui nous paralyse, qui nous arrête, qui nous fait en sorte qu'on n'avance plus. Je ne sais pas si vous connaissez le livre « L'histoire de Pi ». L'histoire de Pi, oui. Il y a une phrase savoureuse dans cette histoire-là que j'aime beaucoup citer, qui dit que choisir le doute comme mode de vie, c'est un peu comme choisir l'immobilisme comme mode de transport. On a toutes sortes de questions. Je ne sais pas comment est vos vies à vous. Je ne sais pas comment votre foi elle est. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre quotidien par rapport à votre relation avec Dieu. Mais le doute, c'est à peu près la chose la plus normale qui caractérise qui nous sommes dans notre contexte. Si on agit avec foi, on va se retrouver vulnérable, un peu comme Abraham peut être vulnérable. Si on reconnaît les limites de notre contrôle dans nos propres vies, si on reconnaît la grandeur de Dieu par rapport à qui nous sommes, on devrait avoir des questions. Et si je comprends bien le passage ici, Dieu ne nous dit pas de ne pas questionner. Il nous prend par l'épaule puis il nous fait compter les étoiles. Puis il nous amène pour nous réconforter, un peu comme n'importe quel parent ferait aux questions venant de son enfant. Puis il lui dit essentiellement, je ne te laisse pas tomber. Je ne te laisse pas tomber. Tu as des doutes, c'est correct. Moi, je suis avec toi. Puis le verset 6, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Ça devient un des points centraux des épîtres de Paul pour nous dire qu'Abraham n'avait rien fait. Il n'avait pas bien performé. Il n'avait pas bien agi. Il avait accepté dans sa vulnérabilité de croire qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire par rapport à qu'est-ce qui est en train de se passer, par rapport à la grande histoire dans laquelle il était impliqué. Il ne comprend probablement pas qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Abraham comprend et ne comprend pas. Mais je n'ai pas l'impression qu'Abraham est ici en train de dire « Ah oui, je vois très bien la croix. » Je ne sais pas si Abraham est en train de voir si loin que ça. Mais il fait confiance à Dieu dans la mesure où il est capable de lui faire confiance. Et c'est ça qui lui est attribué comme justice. Abraham a cru que l'Éternel allait lui donner cette descendance. Mais à ce moment, il y avait quelque chose dans la réponse de Dieu là, je suis perdu un petit peu. Oui. À ce moment, il y a quelque chose dans la réponse de Dieu qui le réconforte pour la suite. Mais après, Dieu lui dit qu'il allait hériter de la terre d'où ils étaient. Et là, il y a une autre sorte de doute qui émerge chez Abraham. Comment est-ce que je peux être sûr que ça va arriver? Je ne suis pas sûr de pouvoir tout faire. Hériter de la terre, imaginez un peu que Abraham reçoit cette promesse d'hériter de la terre. Il y a des gens qui habitent là. Qu'est-ce que tu vas me demander, Dieu, pour que je puisse hériter de cette terre-là? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de cette terre-là? Qu'est-ce qui devra arriver pour que je puisse me retrouver là? Comment est-ce que je sais que ça va se passer? Tandis que la première réponse de Dieu, c'est une réponse remplie au premier doute que Abraham émet est rempli de sensibilité, la deuxième partie de la réponse est un petit peu différente. La deuxième réponse de Dieu, à la deuxième manifestation de doute, Dieu dit à Abraham d'aller chercher des animaux. Abraham va les chercher sans poser de questions, il les découpe comme si c'était évident pour tout le monde ce qu'il faisait. Moi, ce passage-là, j'ai vu longtemps, je me suis gratté la tête. Il me semble que si quelqu'un me disait, si je parlais avec Dieu, puis il me dit, va chez un bœuf, ou je pense à des sacrifices ou quelque chose. Il y a une affaire que je comprends. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Dans les faits, c'était évident pour Abraham qu'est-ce qu'il était en train de faire. Ça ne l'est pas pour nous et c'est important de s'arrêter pour expliquer la situation. Normand, j'ai jusqu'à quelle heure? Comme je veux. Ça, c'est dangereux. Dire à un prof d'université qu'il a comme le temps qu'il veut. Moi, on pèse sur play, je peux parler pendant 3 semaines. Là. C'est un petit peu embêtant. Je vous laisserai pas, je vous garderai pas 3 semaines. C'est bon. Fait qu'Abraham, Dieu demande quelque chose à Abraham, puis c'est pas clair pour nous qu'est-ce qu'il est en train de demander, mais c'était clair pour Abraham. Ce qu'on ne sait pas, mais qui était évident pour Abraham, c'est que Dieu allait utiliser les animaux pour faire un contrat. Dans notre société, si on veut un contrat, on utilise du papier, des crayons pour signer. On a maintenant des ordinateurs puis des imprimantes, right? Puis si ça dépend de la place où on travaille, des fois, il faut qu'on envoie des fax puis des choses de même. Encore des fax aujourd'hui, c'est quand même trouble. Je regarde Lucie parce que c'est les comptables qui font ça, les comptables et les avocats. Mais dans ce temps-là, c'est pas comme ça qu'on fonctionnait. Dans ce temps-là, il y avait cette espèce de tradition qu'on coupait les animaux en deux et puis que les deux parties qui étaient d'accord pour la chose sur laquelle on s'entendait marchaient à travers les morceaux d'animaux qui étaient coupés en deux. Si je comprends bien, ils étaient coupés, puis là, ceux d'entre vous qui connaissaient mieux ce genre de truc-là que moi pourront me confirmer ça, mais on coupait... c'était pas coupé comme ça, mais c'était coupé comme ça. On coupait les animaux. C'était assez compliqué. Puis si on lit bien le texte, on voit qu'il s'est passé une longue période. Pendant toute la journée, Abraham s'est occupé à faire ces trucs-là. On coupe les animaux de long en large. On les ouvre comme ça. Et il faut passer. Et l'idée derrière ça, c'est si je ne tiens pas mon bout de l'entente, il va m'arriver la même chose qu'aux animaux. Vous me suivez? Fait que tu avais intérêt à respecter ton bout de l'entente. D'accord? Si je ne respecte pas mon bout de l'entente, j'accepte qu'il m'arrive la même chose que ce qui est arrivé aux animaux. On voit dans Jérémie que Dieu fait le prophète fait référence à cette tradition. Nabucodonosor est en train d'assiéger la ville de Jérusalem. Et voici ce qu'il dit, voici ce que nous dit Jérémie. Dieu dit à travers Jérémie, « Je livrerai ces hommes qui ont transgressé cette alliance que j'avais ratifié, car vous n'avez pas tenu les engagements que vous aviez pris lorsque vous avez conclu cette alliance devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre les deux moitiés. » Anecdote à raconter. Chez nous, à Québec, on a une communauté de République centrafricaine et de République démocratique du Congo qui vient en tant que réfugiés. La ville de Québec accepte beaucoup, beaucoup de réfugiés. Et c'est souvent des réfugiés qui fuient des groupes islamistes radicaux qui sont passés, qui ont vécu plusieurs années dans des camps de réfugiés et qui ont eu la permission de venir habiter au Canada. Et la ville où on les place, parce qu'ils sont de langue française, la ville première où on les place, c'est Québec. Il y a aussi Sherbrooke et il y a aussi Trois-Rivières où on place des réfugiés. Et le bâtiment où ces gens-là atterrissent à Québec est juste en face de notre église, de notre bâtiment d'église. Et là, les gens arrivent chez nous parce qu'ils voient, il y a un petit panneau, c'est écrit « Église protestante ». Puis ils disent « Ah, puis ils viennent en gang chez nous ». Et là, quand on a raconté cette histoire-là, là-bas, ils disent « Mais c'est comme chez nous, on fait ça chez nous ». Les Africains font encore ce genre d'entente-là avec les animaux dans leur contexte tribal, dans leur contexte où ils prennent des ententes d'une tribu à une autre. Ça fait partie des traditions qu'ils utilisent encore. Couper des animaux en deux, marcher à travers les animaux. Et je présume que tout le monde tient leur barre de l'entente. Je n'ai pas encore entendu d'histoires d'entente qui n'ont pas été respectées. C'est comme ça qu'on faisait les contrats. C'est comme ça que les choses étaient organisées entre les gens à cette époque-là. Puis il faut essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête d'Abraham, parce que la parole ne le dit pas, le texte ne le dit pas. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait qu'il s'en va chercher des animaux pour une entente. Puis on peut imaginer que si Dieu me demande de préparer un truc pour une entente, je pourrais être inquiet parce que je n'ai aucune idée de ce que Dieu va me demander. Je sais juste que là, on parle d'animaux puis d'être coupé en deux, puis je ne sais pas si ça va être une bonne affaire. Comprenez la préoccupation qu'il devait avoir? Qu'est-ce que Dieu va me demander? On s'apprête à faire un contrat ensemble, là. Qu'est-ce qui va arriver? Abraham ne savait pas trop qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans l'entente. Trois petits éléments. Il y a une grande terreur qui se manifeste chez Abraham. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. D'où ça vient? Est-ce que c'est juste parce qu'il est inquiet, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'entente? Une des choses qu'il faut savoir, c'est que on est dans un bout de texte, ou si je comprends bien, parce que je ne suis pas spécialiste de la question, mais si je comprends bien, le langage qui est utilisé, c'est le même langage qu'on utilise quand on parle de Moïse qui rencontre Dieu. Et si je comprends bien, ce bout de texte-là est en train de nous préparer à lire, à être en présence de Dieu lui-même. Dieu va se présenter. Dans des situations où Dieu se présente lui-même, on peut comprendre que l'angoisse et la torpeur peuvent saisir une personne. Au verset 17, on lit « Un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. » Encore une fois, les mots sont très, très semblables à ce qui a été utilisé. Il semble que le tourbillon de feu est le même mot, traduit différemment, que le mot pour colonne de nuée qu'on utilise dans les bouts de texte où on parle de Dieu qui précède le peuple d'Israël. La torche de feu est le même mot qu'on utilise pour parler d'un éclair. Alors, vous pouvez imaginer, les animaux sont séparés. Abraham sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, une terreur, une crainte assez importante. Rappelez-vous de toutes les fois où, dans les Écritures, un ange apparaît et la première parole qui est nommée, c'est « N'ayez pas peur ». Il y a quelque chose dans ce contact-là qui très souvent est effrayant et pour lequel on a besoin d'être réconforté. Ici, on est dans une situation où Abraham, par sa réaction, par son sentiment, par qu'est-ce qu'il est en train d'expérimenter, est en train de nous dire « Il y a une présence que je ne comprends pas. » Et là, on a le langage que Dieu utilise pour parler de sa présence dans d'autres parties de les Écritures, qui nous dit qu'il y a une espèce de tourbillon avec quelque chose de très brillant, l'équivalent d'une espèce de lumière d'éclair figé qui passe à travers les animaux coupés en deux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Deux choses. Dieu entre dans cette entente en prenant sur lui l'assurance qu'elle va réussir. Le fait qu'Abraham ne marche pas à travers les animaux est aussi important que le fait que Dieu passe à travers les animaux. Le succès de l'entente ne dépend uniquement que de Dieu. Rien ne dépend d'Abraham. Tout dépend de ce que Dieu va faire. C'est un peu comme si vous alliez à la banque, vous négociez une hypothèque et que la conseillère de l'autre côté vous dit « Bon, quand est-ce qu'on commence à vous payer? » Tout est déjà déterminé. L'entente est déjà réglée. Mais ce n'est pas tout. La deuxième chose, c'est que c'est important de prendre connaissance du fait que, en rétrospective, je ne sais pas qu'est-ce qu'Abraham pouvait penser à ce moment-là, mais en rétrospective, c'était clair qu'Abraham n'allait pas réussir. Et c'est clair que, depuis le début de l'histoire, nous ne réussissons pas. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu prophétique dans ça. Dieu est en train de dire, il y aura un temps où je vais être coupé en deux. Au chapitre 15 de l'Évangile de Marc, on lit « À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une forte voix, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Martin Luther, lui, a pris beaucoup de temps pour réfléchir à cette section-là, puis il a dit « Comment est-ce que Dieu peut abandonner Dieu? » Puis dans ses écrits, il dit qu'il n'arrive pas à une conclusion satisfaisante. Comment est-ce que Dieu peut abandonner Dieu? Je pense que ce qu'on est en train de voir sur la croix, c'est Dieu coupé en deux. Dieu qui sait que l'entente n'a pas été tenue, mais qui promet qu'il encaisse le coup pour l'entente qui n'est pas tenue. Il y a quelque chose de prophétique dans ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de nous dire que tout dépend de lui et qu'il sera coupé en deux. Dans Ésaïe, au chapitre 53, on utilise un langage qui est très évocateur de ce qui est en train de se passer sur la croix et de ce que Dieu est en train de faire avec les animaux. Le chapitre 53, c'est un chapitre qui nous parle d'un Messie souffrant. Une des choses que j'ai apprises, c'est que il y avait deux visions, deux versions du Messie qu'on voit dans les Écritures. Il y avait le Messie triomphant, et il y avait qui devait reprendre possession. Et on sait que ce Messie-là va venir aussi. On sait qu'il y a une espèce de retour qu'on attend où il y aura un triomphe. Mais il y avait un Messie souffrant qui était mal compris, mal documenté. Et c'était très compliqué pour les apôtres, dans les évangiles, c'était très compliqué pour les apôtres de comprendre que le Messie allait devoir souffrir, allait devoir mourir. C'est quelque chose de très difficile. Et les Juifs de l'époque de Jésus, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient très, très bien intégré. Mais le livre d'Ésaïe parle beaucoup de ce Messie-là. Et c'était une nouveauté dans les évangiles, c'était quelque chose de nouveau, qu'il fallait qu'on comprenne que le Messie souffrant et le Messie triomphant, c'était la même personne. Et qu'il fallait comprendre un peu comment les choses allaient s'articuler dans le temps. Chapitre 53, au verset 5, « C'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. » Encore une fois, le langage évocateur de l'entente avec Abraham. « Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Verset 8, « Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. » Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Verset 10, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Le langage est très évocateur de l'entente qu'on a dans le chapitre 15 de la Genèse. On peut voir ici qu'avec Abraham, Dieu est en train de placer son histoire de sauvetage. Il est en train de placer le moment, il est en train de préparer le terrain pour le moment où il va faire le débarquement, où c'est lui-même qui va venir nous voir. Il est en train d'annoncer qu'il y aura un temps où il y aura Dieu brisé en deux. Pour cette création dans laquelle il a versé tout son amour, qu'il ne veut absolument pas abandonner. Deuxième point. Vous êtes toujours là? Il me reste encore 15 minutes, hein? Deuxième point, il ne me reste pas 15 minutes, je ne vais pas prendre 15 minutes. Qu'est-ce que ça soulève? Qu'est-ce que ça implique pour nous? La première chose que ça implique pour moi, puis moi c'est très, très important, parce que s'il y a une affaire qui m'énerve, je ne sais pas si dans le culte réformé on a le droit d'avoir des choses qui nous énervent. On a ça le droit, oui. S'il y a une affaire qui m'énerve, c'est l'idée que le christianisme, c'est comme ça qu'on présente le christianisme, hein? Tu travailles, tu fais du mieux que tu peux, tu t'arranges pour toujours bien agir, puis si tu es assez bon à la fin de tes jours, Dieu va te regarder, puis il va voir si tu es assez pesant pour passer au paradis. C'est un peu l'espèce de vision cheap du christianisme qu'on nous présente régulièrement. Cette histoire-là de Dieu qui accepte de tout encaisser, c'est quelque chose de totalement nouveau. Quand Paul nous dit que c'est de la folie pour les Grecs, c'est un scandale pour les Grecs, c'est de la folie pour les Juifs, c'est fou pour notre époque maintenant. Cette histoire-là où Dieu nous aime, est prêt à tout, c'est une histoire qui est sans parallèle. Et ici, on a cette idée que tout dépend de lui. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui est l'artisan de l'entente et c'est lui qui accepte d'encaisser le coup pour tout ce que nous devrions encaisser. Si on reconnaît la profondeur de la cassure qui nous habite, et on voit l'affection que Dieu a pour nous, on peut comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Mais autrement, on ne voit pas clair. C'est une histoire qui se retrouve nulle part ailleurs. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est une histoire qui se retrouve nulle part ailleurs. Puis un des grands défis de notre époque, c'est de raconter cette histoire-là une nouvelle fois pour que les gens saisissent de quoi il est question. Parce que les gens ne voient pas cette idée-là. Quand on dit que le christianisme, c'est « je travaille assez fort pour mériter quelque chose », on est en train de prendre le christianisme et de le rendre comme toutes les autres choses qui se passent sur notre planète. Tout ce qui se passe dans notre monde, c'est en fonction de ma capacité de bien agir. On est tous comme ça. Ça fait partie de notre cassure de voir ça. Quand quelqu'un a une malchance qui lui arrive, très souvent, on va dire « quelle erreur a-t-il commis? » Parce qu'on veut expliquer la malchance qui lui arrive. On veut pouvoir dire « il a fait quelque chose et ce qui lui arrive est mérité. » Vous me suivez quand je dis ça? On est en train de rendre les choses autour de nous d'une façon prévisible, où on contrôle les paramètres. Et si je comprends bien ce que ce texte-là nous dit, c'est qu'on fait ça souvent avec notre foi, et notre foi est complètement différente. C'est une des raisons pourquoi notre foi est absolument scandaleuse pour le monde autour de nous. Les gens vont dire « quoi? » Dieu nous aime vraiment? Dieu qui? Lequel des dieux? Quel dieu pourrait vouloir un sacrifice? Dieu ne veut pas de sacrifice, Dieu se sacrifie. Quelque chose d'absolument scandaleux. La première chose que je dirais, pour moi, qui est très importante, c'est que c'est important que pour moi, c'est important. Pour moi, c'est essentiel de me rappeler que notre croyance fondamentale, c'est quelque chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui n'est pas présent dans les Écritures. On voit en filigrane l'histoire de Dieu dans toutes sortes de différentes situations. On est inspiré quand on voit dans Harry Potter, quand on voit les parents de Harry Potter se sacrifier devant Voldemort, et on dit « Oh, c'est beau, les parents de Harry Potter ont fait ça. » J'aime beaucoup Harry Potter, soit dit en passant, d'accord? On voit ça, on est inspiré, et on oublie que ça, cette image-là, des parents de Harry Potter qui se sacrifient pour sauver Harry Potter, ça ne vient pas de nulle part. C'est une histoire qui nous inspire parce qu'elle nous rappelle une plus grande histoire. Il y a quelque chose de plus profond que ça nous rappelle. Et cette histoire-là de résilience dans la vie des gens, de ces choses-là, c'est des histoires qui nous habitent, mais que quand on va poser la question « qu'est-ce que c'est que le christianisme? », les gens vont souvent dire « ben, il faut agir d'une certaine manière pour être rendu acceptable. » Alors, première chose, pour moi, qu'est-ce que ça implique? C'est de me rappeler que je crois quelque chose qui ne vient pas de ce monde. Moi, ça me réconforte de croire quelque chose qui ne vient pas de ce monde. Puis la deuxième chose, c'est que je pense que ça nous parle beaucoup dans nos difficultés. Je veux lire un texte qui sort du chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. C'est important. Je ne sais pas comment vont vos vies. Je ne sais pas comment les choses se passent. On ne se connaît pas. Quand j'étais jeune, je faisais du vélo, du cyclotourisme. Et puis, mon vélo était toujours un petit peu approximatif, là. Il y avait des affaires qui pendaient de chaque côté. J'avais les sacoches puis les affaires, là. Mais ça faisait du bruit quand vous m'entendiez venir en vélo, là. Il y avait des affaires que ça faisait clac-clang, clac-clang. Il y avait toujours quelqu'un qu'on rencontrait qui était très aérodynamique. Il y avait un vélo de l'année, puis il était tout musclé, beau, puis il pédalait, puis il y avait les affaires. Puis très aérodynamique. On sentait que pour lui, le voyage de vélo était beaucoup plus simple que pour moi. Je ne sais pas comment vont vos vies. Je ne sais pas si votre vie est aérodynamique, comment les choses vont. Ce n'est pas mon expérience. Nombreuses fois, je me retrouve avec Abraham en disant, je me semble, il y a quelque chose que je ne comprends pas, il y a des affaires qui se passent que je ne saisis pas. Qu'est-ce qui devrait être en train de se passer? Vous comprenez ce que je veux dire? La vie n'est pas super aérodynamique, il y a énormément de friction. Cette vérité-là que Dieu porte l'histoire du début à la fin, il y a vraiment quelque chose de salutaire pour moi dans ça. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara assurément, « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. En effet, les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers de ce qu'il avait promis une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge en saisissant fermement l'espérance qui nous est proposée. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons cherché refuge. Quand on se rend compte de la cassure, on cherche refuge. Quand on arrive à savoir qu'il y a quelque chose qui cloche, on cherche refuge. Et ce que le texte nous dit, c'est qu'on saisit l'espérance qui nous est proposée, de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Et l'auteur nous dit après, « Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie, sûre et solide. » Un point de repère. La promesse de Dieu est un point de repère dans nos vies, dans les affaires qui sont en train de se passer, qui ne fonctionnent pas comme on pense. Quand on voit la cassure, quand on voit comment l'intérieur comme l'extérieur est fêlé, quand on constate nos défaillances, on se rappelle que, ultimement, ça ne dépend pas de nous. On est appelé à faire partie d'une grande histoire pour laquelle la responsabilité du dénouement n'est pas entre nos mains. On va avoir des erreurs, on va avoir des gaffes, mais ça ne dépend pas de nous. Puis on est quand même appelé à faire partie de cette histoire-là. Prions. Notre Père, on est vraiment reconnaissant du fait que dans l'histoire de sauvetage que tu as préparée pour nous, dans le fait que, dans la manière que tu veux nous réconcilier à toi, tout dépend de toi, tout repose sur toi, sur ton œuvre, sur ce que tu as fait depuis le début de l'histoire, sur ce que tu as fait sur la croix et sur ce qui reste à faire. On veut te remettre nos vies, on veut te remettre tout ce qui nous préoccupe. Puis on te demande de nous bénir, de nous rappeler que tu es là, que tu marches avec nous là où on est, mais toujours avec l'idée dans l'esprit que l'œuvre dépend de toi. On est reconnaissant pour ton affection, pour ton amour envers nous. Cet amour qui a fait que tu nous as créés, puis cet amour qui fait que tu ne nous lâches pas. Dans toutes sortes de différentes façons, on est reconnaissant du fait que tu te montres à nous, malgré nos défaillances. Puis on te prie, Seigneur, on te demande de nous donner la force, le courage, pour qu'on puisse se tourner les uns vers les autres avec amour, puis que dans ces gestes qui nous vulnérabilisent, qu'on puisse entendre ta parole qui nous dit de ne pas avoir peur, que c'est toi notre bouclier, dans chacune des parties de notre vie. Amen.